toutes et à tous et bienvenue sur la web radio de l'UT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer, émission produite et animée par les étudiants du BUT Gestion administrative et commerciale. Je m'appelle Marie et je serai votre animatrice. Je vous accompagnerai tout au long de l'émission. Je suis aujourd'hui avec Léonie, Léa, Chloé et Calypso. Bienvenue dans notre émission Culture Flip dédiée à la culture en lien avec l'actualité. Nous allons commencer avec le premier sujet. Chloé, que vas-tu nous présenter ?
Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la Fashion Week de Paris. Donc pour la première fois depuis la pandémie, la planète mode s'est retrouvée physiquement autour des collections féminines été 2022. La Fashion Week, l'événement tant attendu dans la capitale de France, a fait son retour dans la joie, le rire et l'optimisme. Les incroyables designers, couturiers et stylistes ont sorti le grand jeu pour la collection d'été 2022. La nouvelle génération n'est pas celle d'il y a 50 ans, disait Olivier Rousteing. Olivier Rousteing est le directeur artistique de Balmain, donc Balmain qui est une marque luxueuse. Il a voulu développer en fait une collection mixte et non genrée. Donc j'invite tous les passionnés de mode à aller découvrir les différents styles plutôt étranges mais curieux à la fois de Balmain. Toutes les marques luxueuses veulent faire passer en fait un message à travers leur collection. Certaines tenues d'ailleurs parlent beaucoup d'elles-mêmes.
Mais est-ce que la Fashion Week de Paris a une histoire ?
Alors oui, bien sûr, la Fashion Week de Paris a une histoire. Elle est indissociable du mythe et de la légende. Donc l'historienne de la mode Valérie Steele observe dans son ouvrage Paris, Capital of Fashion. Si on parle un peu de l'histoire de la Fashion Week de Paris, elle est née avec des créateurs comme Charles Worth ou Paul Poiret au début du XXe siècle. Donc dans les années 1920 et 1930, plusieurs couturiers dévoilent leurs talents, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli ou Madeleine Vionnet. Les défilés étaient plus intimes et individualisés. Chaque maison de mode présentait ses collections lors d'événements. En 1947, apparaît la tendance des défilés installée par le New Look. Donc c'est la première collection de Dior qui fait son entrée devant la presse de mode. Le New Look de Dior vise la féminité affirmée. Après la grande marque Dior, c'est Yves Saint Laurent qui émerge en lançant une ligne de prêt-à-porter en 1966. Saint Laurent signale un autre changement d'époque. Le prêt-à-porter était devenu la voie d'avenir.
Et quand a eu lieu vraiment la première semaine de la mode ?
Alors en 1973, la première semaine de la mode officielle se déroule à Paris avec la création de la Fédération Française de la Couture, un défilé qui change à tout jamais l'histoire de la mode, connue depuis sous le nom de la bataille de Versailles. À partir de ce moment, la Fashion Week a évolué, les défilés sont assistés maintenant par 6000 personnes et ceux de Thierry Mugler sont grandioses au Zénith de Paris. De nos jours, les défilés parisiens sont plus spectaculaires que jamais, dit Vogue à la une de son magazine. Les décors conçus pour l'occasion sont exceptionnels.
Et pensez-vous que les célébrités influencent à s'intéresser à la Fashion Week ?
Alors oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une stratégie en fait d'inviter des grandes stars au premier rang pour apporter encore plus de folie. Les célèbres personnalités postent des photos sur Instagram qui animent les internautes et provoquent plus de visibilité à cet événement.
Et avez-vous un exemple d'une personne connue dans l'histoire de la mode ?
Alors pour moi, Karl Lagerfeld est un personnage connu mondialement, qui a beaucoup de talent. La direction artistique de Karl Lagerfeld, d'ailleurs, chez Chanel, est à l'origine des exploits de la mode, des créations, des pensées artistiques. Il essaye en fait chaque année de surpasser la précédente. Lors de la Fashion Week, les grands créateurs en fait se sont enfin retrouvés physiquement. Nous remarquons la forte évolution de la Fashion Week. Je pense que les façons de penser ont changé, ainsi que les messages passés par les designers. Avant, les styles des créateurs étaient basés en fait sur la féminité, alors que maintenant, ils veulent casser en fait les codes de la société. Les mouvements sociétaux tels que le féminisme, le sexisme, les motivent à changer en fait leur façon de penser. On est maintenant plus sur un style mixte non genré.
Merci Chloé pour ta présentation. Nous allons maintenant écouter Léa. Penses-tu que les friperies peuvent-elles être l'avenir du luxe ?
Alors bonjour à tous, je pense qu'effectivement, les friperies sont l'avenir du luxe. Depuis plusieurs années, le marché des textiles de seconde main explose à travers le monde. 33 millions de personnes ont acheté l'an passé au moins un article d'occasion, pesant 1,2 milliard d'euros en France.
Et comment explique-t-on l'augmentation des visites dans les friperies ?
Les grands magasins consacrent la seconde main. Les galeries Lafayette et Le Printemps lancent des espaces de plusieurs centaines de mètres carrés consacrés aux produits vintage dans leur domaine du boulevard Haussmann à Paris. une petite révolution pour ces spécialistes de la mode et du luxe qui institutionnalisent cette nouvelle tendance de consommation. Il s'agit en fait d'une stratégie pour une clientèle différente, plus jeune et française, surtout en raison de la crise sanitaire. Les clients étrangers sont beaucoup moins nombreux. On apprend sur France TV Info qu'à partir de fin août, il y a un pourcentage à plus de 28% de progression de la clientèle française. Le luxe d'occasion représente 10% du marché total du luxe et pour certaines femmes, c'est une folie devenue accessible. Pour moi, c'est un concept de plus en plus tendance, un concept pour allier le chic et la crise. Des vêtements d'occasion de luxe, ce concept est gagnant-gagnant. D'un côté, le dépôt permet de vider ses cartons et de l'autre, il permet aux acheteuses de faire des économies. Des vêtements de marque pour tous les goûts, comme des sacs de couturier à 30 euros et des hauts tailleurs. Le dépôt-vente répond à un réel besoin. Des vêtements sont vendus de 20 à 500 euros, donc c'est moitié moins cher que le prix du neuf. Plus de 1000 pièces sont déposées chaque jour. Les prix sont relativement intéressants, beaucoup de personnes achètent par impulsion et ne peuvent plus le mettre, donc ces vêtements arrivent dans ce lieu. Avec la conjoncture actuelle, le principe est bien, puisque les gens qui sont en manque d'argent peuvent quand même s'acheter des vêtements à bas prix et de qualité. En effet, certains n'ont pas les moyens d'acheter régulièrement chez des marques et aujourd'hui, c'est un moyen d'accéder à des produits iconiques et d'avoir de très belles pièces à un moindre coût. C'est un moyen de renouveler, donc le chiffre d'affaires des friperies a augmenté de 20 à 50% en quelques années.
Comment expliques-tu que les friperies se sont développées ? Quelles sont leurs utilités ?
Autrefois, le commerce de la fripe et de la brocante étaient deux secteurs qui étaient vus pareils. C'est au fil des années, donc au 19e siècle plus précisément, que le secteur de la friperie a commencé à prendre progressivement place et à se spécialiser. À la base, les friperies avaient pour intérêt de subvenir aux populations les plus défavorisées. Mais, depuis quelques années, ce mode de consommation connaît une nouvelle ascension. Il est désormais perçu comme un moyen de dépenser moins, mais aussi de s'inscrire dans une logique éco-responsable. Il s'agit également d'un avantage incontestable pour ceux qui souhaitent vider leur dressing. Le vintage étant très populaire, la fréquentation des friperies se fait de plus en plus régulière, avec une clientèle plus diversifiée, donc notamment avec des étudiants, des salariés, des créateurs de mode et des touristes. Comme on peut le lire dans le journal France 2, écrit en septembre 2021, la friperie fait maintenant partie intégrante de la mode. C'est un moyen pour se singulariser, trouver des pièces de luxe rares à bas prix, ce qui permet à certains d'extérioriser leur personnalité et d'adopter un style qu'ils n'ont pas pu avoir avant, dû à des prix très élevés. Si elles constituent un nouveau mode de consommation, les friperies ne restent qu'un plaisir ponctuel, donc c'est-à-dire que l'on cherche à trouver une pièce et non à compléter l'ensemble de sa garde-robe. Pour conclure, comme vous l'aurez compris, acheter des vêtements et des accessoires de luxe dans une friperie vous permettra de refaire votre garde-robe avec de belles pièces uniques et tendances à prix abordable. En plus de donner une seconde vie à ces habits, vous y ferez de bonnes affaires.
Merci Léa pour cette intervention. Calypso va maintenant aborder un tout autre sujet qui porte sur nos franchises sur les écrans américains.
Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de nos franchises sur les écrans américains. De tout temps, l'Amérique fait rêver et le cinéma américain en particulier. Selon moi, quel acteur ou actrice français n'a pas rêvé de fouler un jour le sol hollywoodien ? Rien que ces 10 dernières années, de nombreux comédiens français ont été repérés par les cinéastes américains. Il y a eu, entre autres, Jean Dujardin, qui a été le premier acteur français à recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film muet The Artist. Marion Cotillard a, elle, reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Edith Piaf dans le film biographique La Môme. Ainsi, nos Frenchies sont nombreux à attirer l'œil des grandes productions cinématographiques américaines. On peut même dire que dès qu'une actrice ou un acteur français cartonne dans un rôle en France, c'est la porte ouverte sur les propositions de scénarios américains.
Et que peut-on dire de Léa Seydoux à l'affiche aux côtés de Daniel Craig dans le nouveau James Bond ?
La notoriété grandissante de Léa Seydoux lui a permis de briguer des rôles de plus en plus importants et d'aspirer à une carrière internationale, lit-on dans sa biographie parue dans le Figaro. D'autres Françaises ont incarné les célèbres James Bond Girls, mais Léa Seydoux a quelque chose de particulier. Elle est la première à avoir un véritable rôle dans la vie amoureuse du héros deux films de suite, aux côtés de l'illustre 007 Daniel Craig, qui endossait pour la dernière fois, normalement, le costume du plus célèbre agent secret. Elle avoue un faible pour 007. Je ne suis pas très sensible aux films de super-héros, mais James Bond, c'est un personnage pour lequel on a de l'empathie. Et Daniel Craig a accentué cette dimension. Il a changé quelque chose. Il l'a modernisé. Ça pourrait être ringard, mais c'est actuel.
Y a-t-il un autre acteur français à avoir conquis Hollywood ?
Bien sûr. D'autres acteurs ont reçu un appel du pied venant d'outre-Atlantique, comme Omar Sy. Après son rôle remarquable dans Intouchables, énorme succès pour lequel il reçoit le César du meilleur acteur, Omar Sy part s'installer à Hollywood où il tourne des films comme X-Men ou Jurassic World. En France, il signe un coup de maître en interprétant le rôle d'Hassan Diop dans une série intitulée Lupin en janvier 2021, dans laquelle son personnage s'inspire de l'univers du célèbre gentleman cambrioleur. C'est un énorme succès international qui conduit Omar Sy à signer avec le géant du streaming Netflix un contrat de plusieurs années. Omar Sy a scellé un contrat de plusieurs années avec la plateforme américaine pour produire et jouer dans des films. Une grande première pour un artiste français, apprend-on sur Le Figaro. Cet accord verra la société de production de Sy, basée à Paris et à Los Angeles, développer des films originaux pour Netflix, avec Sy comme acteur et producteur exécutif, cite-t-on sur Le Petit Journal. La série de ce nouveau héros à la française est la deuxième série la plus visionnée de l'histoire de Netflix. Ce n'est donc pas un hasard si notre Frenchie fait partie des personnalités les plus influentes de 2021. En effet, le Times a publié son top 100 des personnalités les plus influentes dans le monde. L'acteur français Omar Sy ou encore la pop star américaine Britney Spears figurent dans la liste. Sur Twitter, l'acteur s'est dit honoré de faire partie du Times 100, dit-on sur le site Stratégie.
Est-ce que tous les acteurs français ont-ils eu la même chance ?
Et évidemment non, tous les acteurs et actrices de l'Hexagone qui ont tenté leur chance aux États-Unis n'ont pas tous connu le succès de Léa Seydoux ou Omar Sy. Cependant, nul doute que le jeu de nos comédiens français n'a pas fini de séduire les producteurs cinématographiques américains. La French Touch débarque aussi au cinéma.
Merci Calypso pour ta présentation. Alors, que pensez-vous du sujet de Chloé ?
Je trouve que c'est plutôt une bonne chose de développer un style mixte parce que cela permet de montrer que les hommes et les femmes peuvent s'habiller de la même façon et cela évite les stéréotypes. Par exemple, on peut très bien voir une femme porter un costume et un homme porter une jupe.
Et moi, je trouve que c'est plutôt bien les mouvements sociétaux qu'il y a parce que ça permet de faire évoluer les mentalités. Et personnellement, j'ai déjà participé à ce genre de manifestation et je continuerai à lutter pour cette cause parce que je trouve que c'est quelque chose d'important.
Et maintenant, que pensez-vous du sujet de Léa ?
Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose du côté écologique parce que ça permet de consommer autrement. Et dans un monde où le développement durable est de plus en plus important, bah, c'est vraiment une bonne chose d'aller dans une friperie.
Alors moi, je pense que une friperie, c'est bien parce qu'on peut très bien trouver des choses de qualité à bas prix. Moi, personnellement, j'ai déjà été dans une friperie et je continue d'utiliser ce mode de consommation. Et je trouve que c'est bien que ça évolue de cette façon.
Donc c'est une bonne chose pour l'environnement et pour notre porte-monnaie.
Exactement.
Et maintenant, quels sont vos avis sur le sujet de Calypso ?
Alors je trouve que les acteurs français délaissent le cinéma français et veulent absolument aller dans des grands cinémas dans différents pays.
Alors oui, tout à fait. Moi, je pense aussi que c'est dommage qu'ils négligent leur pays d'origine parce qu'ils ont eu leur opportunité en France. Et donc, je pense qu'ils doivent rester en France pour continuer tout simplement leur carrière.
Bon, bah maintenant, nous allons passer au brief de Culture Flip. Donc, je vais vous parler du Milano Film Festival. Donc, le Festival de Milan, ou autrement dit le Milano Film Festival, qui se tient donc chaque année, revient avec des nouveautés depuis la crise sanitaire. De nombreux cinéastes, réalisateurs et producteurs mondialement connus se retrouvent durant cet événement. Les amateurs de cinéma pourront assister à des projections des derniers films italiens ainsi que français qui ont fait la une, dans des salles de cinéma et également en plein air. On y trouvera cette année la projection de deux films réalisés par Bertrand Mandico, After Blue et Les Garçons Sauvages. Bien évidemment, comme tous les ans, les spectateurs pourront voter et ainsi élire le grand gagnant de ce concours cinématographique.
Alors moi, je vais vous parler de l'événement du Met Gala, qui est un gala annuel qui existe depuis 1948. Cependant, à l'époque, ce gala était uniquement réservé à la très haute et richissime société de New York. qui s'est peu à peu étendu à partir des années 70. Toutefois, le Met Gala n'est pas qu'un simple défilé. En effet, il permet de récolter des fonds au profit du Anna Wintour Custom Center, qui est une partie du Metropolitan Museum of Art de New York. Cette partie du musée tient son nom de la présidente du Met Gala depuis 1995, Anna Wintour. Pour moi, le Met Gala permet d'affirmer ses idées. Les créateurs sont capables de transmettre un message au travers de leur création. Le Met Gala est un événement qui met en avant aussi bien les grands créateurs connus dans le monde de la mode que les jeunes créateurs qui souhaitent se faire une place, un nom dans ce milieu.
C'est déjà la fin de notre émission. Je remercie mes invités Chloé, Léa et Calypso pour nous avoir consacré du temps et de s'y être prêtés au jeu.
Merci pour l'invitation.
Merci à toi, c'était génial.
Je tiens également à remercier Léonie qui a travaillé pour le montage. Vous retrouverez nos collègues de GACO 1 l'année suivante pour la prochaine émission. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.studiogaco.fr pour retrouver toutes nos émissions.